Dimanche dernier, nous avons répondu à la question « Comment avoir une vie de prière plus profonde ?» Nous avions vu quatre points que nous retrouvons dans la prière de Jésus, donc Jean 17, versets 1 à 5. Le premier point, c'était prier avec foi. Deuxième point, c'était attendre le temps de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'était pas facile. Troisième point, rechercher la gloire de Dieu. Et quatrièmement, développer avec Dieu une relation intime. Ce matin, nous allons voir comment nous pouvons tenir bon dans un monde qui rejette Dieu et qui rejette ses enfants, qui nous rejette. Nous vivons dans un monde qui est opposé à Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes dans un combat terrible. Chacun mène déjà des luttes. Il y a des tentations, il y a des épreuves, des choses douloureuses que nous vivons. Mais l'Église est aussi fortement attaquée. Combien énorme est le nombre de personnes tuées à cause de leur foi? Combien énorme est le nombre d'églises brûlées? Combien nombreux sont les chrétiens dans le monde qui ne sont pas libres de se réunir comme nous le faisons ce matin? Comment faire face à tout ça? Comment pouvons-nous avoir la victoire dans nos combats? Comment trouver la consolation dont nous avons besoin dans nos peines, dans nos luttes? Comment trouver la force dont nous avons besoin quand nous sommes découragés, à bout de force, prêts à tout abandonner, à tout laisser tomber? Comment pouvons-nous être renouvelés, encouragés, retrouver des forces nouvelles? Voici comment Jésus-Christ s'y prend. Il prie pour la protection de ses disciples, afin qu'ils soient saints, unis, joyeux, consacrés et en mission. Lisons maintenant Jean chapitre 17. Nous allons lire les versets 6 à 19. Donc, la suite du texte de dimanche dernier. Jean chapitre 17, versets 6 à 19. C'est Jésus qui prie. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de moi. Car je leur ai transmis fidèlement, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartient pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Fin de notre lecture. Jésus, dans cette prière, nous fait un tableau rapide de la situation présente. Au début, Jésus dit dans sa prière qu'il a fait connaître le Père aux disciples. Il a fait connaître la personne, les attributs, le caractère et le message du Père. Jésus-Christ avait pleinement révélé la vraie nature du Père. Jésus-Christ est Dieu. Le Père est Dieu. On avait vu dimanche dernier à quel point cela est complexe de comprendre cette Trinité Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus dit aussi, plus loin, qu'il a protégé, gardé les disciples. Puis il dit qu'il va partir auprès de son Père. Concernant les disciples, ils ont gardé, obéi à la parole de Jésus. Ils savent que tout ce que Jésus a vient du Père. Ils ont reçu son message, ils ont reconnu que Jésus vient de Dieu, et ils ont cru que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie tant attendu. Personne des disciples ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplissent les Écritures, l'Écriture. Pas dans le sens que c'était perdu d'avance pour Judas, comme si sa destinée était toute tracée. Judas a vraiment fait le choix de se perdre. Mais cela était déjà écrit. Ensuite, contrairement à Jésus, les disciples vont rester dans le monde. Mais Jésus précise qu'ils n'appartiennent pas au monde. Voilà un peu la situation présente. Jésus va partir auprès de son Père. Les disciples, eux, vont rester dans un monde qui les hait. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, mais à Dieu. Le monde dans le texte signifie tout ce qui est hostile à Dieu, tout ce qui est opposé à Dieu, tout ce qui refuse Dieu. Toute la mentalité et le système du monde s'opposent à Dieu. Et cela dans toutes sortes de domaines. L'école, les médias, le commerce, le travail, dans tous les domaines. Il y a opposition à Dieu. Tous les domaines de la vie cherchent à nous éloigner de Dieu, se substituer à Dieu, à détrôner Dieu, qui normalement devrait régner dans le cœur de tous. Le monde rejette Dieu parce qu'en fait, il est précisé que c'est en fait la personne du diable qui est derrière. Le monde est sous la domination de Satan. Les disciples doivent maintenant affronter le monde qui est sous la domination de Satan. Affronter le monde sans la présence et la protection de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus avait promis, avant cette prière, d'envoyer le Saint-Esprit pour leur témoignage, pour l'œuvre et la mission, pour leur révéler encore Jésus-Christ et tout ce qu'il a enseigné. Et c'est aussi pour cela que Jésus prie son Père. Comment tenir bon dans un monde qui rejette Dieu et qui rejette les enfants de Dieu? Dans un monde où des milliers de chrétiens sont persécutés pour leur foi. Nous devons faire comme Jésus. Voici les points ici. Priez sans cesse pour la sainteté de l'Église. Priez sans cesse pour l'unité de l'Église. Priez sans cesse pour la joie de l'Église. Priez sans cesse pour la consécration de l'Église. Priez sans cesse pour la mission de l'Église. Je voulais m'arrêter à 3 points, mais il y en a 5, les amis. Premièrement, priez sans cesse pour la sainteté de l'Église. Jean chapitre 17, verset 11. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Jésus commence les demandes qu'il fait en faveur de ses disciples en s'adressant à Dieu comme un Père qui est saint. La sainteté appartient à Dieu. Et fait référence à ses perfections, sa perfection morale. C'est le rayonnement de tout ce que Dieu est, réunissant tous ses autres attributs. Dans ce verset, l'accent qui est mis sur la sainteté de Dieu cible la sainteté de ses disciples au sein d'un monde qui est hostile, pervers. Satan fera tout pour nous pousser à pécher, pour pousser l'Église à pécher. Il fera tout pour nous faire croire que pécher, c'est mieux que de vivre dans l'obéissance à Dieu. Nous prions souvent pour plein de sujets, n'est-ce pas ? Mais nous oublions si souvent de prier pour ce sujet si important, la sainteté. La sainteté dans ma propre vie. La sainteté dans la vie de mon frère, de ma sœur, la sainteté de l'Église. Où en sommes-nous sur ce sujet de manière personnelle ? Est-ce si important que cela pour nous de vivre dans la sainteté ? Nous éloigner du péché pour vivre une vie qui glorifie Dieu. Sommes-nous conscients que Jésus-Christ a payé de sa vie pour que nous soyons saints, saints. Pour tenir bon dans un monde qui rejette Dieu et ses enfants, prions sans cesse pour la sainteté. Je suis tellement triste de ma propre vie par rapport à ce sujet. Tellement triste quand j'entends tant de sujets, tant de personnes qui luttent avec le péché et qui baissent les bras, qui se disent « j'y arriverai jamais ». De toute façon, la vie chrétienne, on dit plein de choses, mais la lutte est tellement dure que j'y arriverai jamais. C'est des belles paroles, mais il n'y a aucun miracle dans ma vie. Vous avez vu ce qu'on a lu ? Père Saint, garde-les, comment ? Par le pouvoir de ton nom, il y a puissance de Dieu pour que je puisse vivre dans la sainteté de Dieu. J'ai besoin, nous avons besoin de prier sans cesse pour la sainteté. Deuxièmement, prier sans cesse pour l'unité de l'Église. Jean chapitre 17, toujours, verset 11, Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. Pourquoi ? Pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. Jésus prie pour l'unité entre nous, c'est-à-dire pour que l'on s'aime. Aussi simple que cela. Ou aussi difficile que cela. S'il y a bien un domaine dans lequel Satan s'acharne, c'est bien celui-ci, l'unité de l'Église. Jésus n'a pas prié pour que nous ayons beaucoup d'activités, même si c'est très bien de faire beaucoup de choses. Le Seigneur n'a pas prié pour que nous soyons bien organisés en tant qu'Église, même si c'est bien d'être organisé. Mais il a prié pour que nous soyons unis. C'est très important et c'est nécessaire. C'est indispensable. Cela révèle qui est Dieu. Il y a tellement de causes de division. Nos différences, par exemple. Nous sommes si différents. Nous mettons souvent en plus en avant la richesse des différences qui permet d'enrichir la vie de l'Église. Oh, combien c'est riche de vivre ces différences dans l'Église, n'est-ce pas ? Nous mettons en avant cela, mais soyons honnêtes. La différence, ou les différences, ne sont pas que source de richesse. Elles sont source de grandes difficultés. Une personne a révélé le problème des impressions, entre guillemets, impressions. J'ai l'impression que, ou il a l'impression que cette personne l'a regardé de travers. Il m'est passé le sous le nez, il ne m'a pas dit bonjour. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça crée des problèmes et des problèmes. Et souvent, les problèmes commencent par de petites choses. Quel gâchis que tout le mal qu'inventent les impressions. Juste ce petit mot. Plus généralement, notre péché, l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, tout cela fait que l'unité est tout sauf gagner d'avance. Et ce n'est pas facile de vraiment apprendre à aimer l'autre. Et il y a tant de choses qui peuvent nourrir les tensions, les disputes. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que Jésus-Christ a prié pour ce sujet. S'il y a bien deux sujets sur lesquels on est vraiment des zéros, c'est vraiment trop difficile pour nous, c'est bien d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. En fait, c'est le résumé de toute la loi. C'est le résumé de tous nos problèmes. Mais c'est là, c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Et c'est pour cela que Jésus prie. On dirait, mais Manu, oui, mais dans la prière, où est l'amour de Dieu? C'est juste avant. C'était le texte, le début du texte au début. Hein, où Jésus prie pour la gloire, sa gloire et la gloire du Père. Et donc, pour nous-mêmes, l'amour de Dieu. Au début du verset 11, surprenant, il est dit « Dieu est saint ». Donc on pourrait donc dire que ce qui devrait unir tous les chrétiens, c'est ce but commun, une quête de sainteté. Oui. Est-ce que l'unité de l'église d'Ozoir se manifeste par une recherche constante, un souci clair, net et précis de sainteté? Est-ce que l'unité de l'Église d'Ozoir honore Dieu? Est-ce que nous pouvons devant Dieu dire, chacun, devant Dieu, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, et je n'ai aucun sentiment d'amertume, aucun ressentiment envers qui que ce soit. Je suis en paix avec l'Église de Jésus-Christ parce que nous sommes unis dans ce même but, la quête de la sainteté. En prenant l'entier de la prière, nous pourrions dire que Jésus vise la protection des disciples afin qu'ils soient un dans l'amour, un dans les objectifs, obéissance, témoignage, un dans la sainteté, un dans la vérité, Jésus en tant que révélation du Père. Mes amis, pour tenir bon dans un monde qui rejette Dieu et ses enfants, pour contrer les attaques de l'ennemi qui veut nous diviser, prions sans cesse pour l'unité de l'Église. Troisièmement, priez sans cesse pour la joie de l'Église. La joie de l'Église, surprenant comme sujet. Verset 13, « À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela, pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » Pas juste la joie, comme ça, une petite joie, mais la joie parfaite. Voici encore un autre domaine où Satan attaque l'Église, la joie. Le contraire pourrait être peut-être plusieurs mots, le découragement. On peut en trouver d'autres. Combien de chrétiens vivent dans la défaite? Combien de chrétiens ne vivent pas dans ce renouvellement constant de la joie d'appartenir à Dieu, de la joie d'être pardonné, de la joie d'avoir accès à la présence de Dieu? De cette joie d'avoir reçu la vie éternelle. Oui, je parle de tout cela. Ça peut-être étonner certains. Mais comment ça se fait qu'un jour j'ai été sauvé, Dieu m'a libéré du péché, donc de là ça m'a bouleversé et d'un coup j'explose en joie. Et Manu, tu es en train de me dire qu'en fait, toute ma vie doit être cette joie. Je dois me maintenir dans cette joie. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. La vie chrétienne, c'est cela. La vie chrétienne, c'est une vie de joie constante qui ne cesse de grandir à cause de l'Évangile, à cause de ce que Christ a fait pour moi. Ce n'est pas juste quand j'étais converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, que d'un coup, voilà, je suis dans la joie, et puis un an après, bon, ça c'est l'histoire ancienne, maintenant on passe à quoi? C'est quoi le prochain message qu'il me faut dans ma vie chrétienne? Quand je dis ça, je me prêche à moi-même. Hein. J'ai passé plusieurs années à comprendre que je n'ai pas à chercher d'autre chose que revenir au message de l'Évangile, me réjouir de ce que Christ a fait pour moi. Et plus je me réjouis, plus je suis dans la joie de ce message, de ce que Christ a fait pour moi et de ce qui en découle, et plus cela me transforme à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai perdu du temps dans ma vie chrétienne? En tout cas, retenez ceci. Nous avons besoin sans cesse de revenir au message de la croix. Et la Sainte Cène nous le rappelle. Combien de chrétiens sont accablés par le doute, par la crainte? Est-ce que la joie de l'Éternel est notre force? Est-ce que la joie de l'Éternel est votre force? David, à un moment donné, malgré ses pires péchés, a prié ainsi. Rends-moi la joie d'être sauvé. Un très bon voyage à ma famille qui s'en va. Et à très bientôt, n'est-ce pas? David, dans un moment donné, malgré ses pires péchés, a prié ainsi. C'est une prière incroyable. Psaume 51, verset 14. Rends-moi la joie du salut. Rends-moi la joie d'être sauvé. Il y a une prière comme cela dans la Bible. Waouh! C'est énorme. Rends-moi la joie d'être sauvé. Sauvé du péché. Sauvé de la mort. Pour la relation avec toi. Nous devons sans cesse prier que l'Église vive toujours dans la joie d'être pardonnée. On doit tout faire pour que cette joie ne diminue pas, mais ne cesse de grandir. Voilà une vérité profonde et très touchante dans le verset 6, qui peut vraiment nous remplir de joie. Je vous invite à le voir avec moi ici. Dieu nous a choisis. Jésus dit, « Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. » Jésus dit plusieurs fois dans cette prière que c'est Dieu qui lui a donné les disciples. C'est bizarre ce truc. C'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui les a attirés à lui. C'est Dieu qui les a arrachés du monde. Et c'est Dieu qui les a donnés à Jésus-Christ. Je sais que cette notion du choix de Dieu peut vraiment déranger. Comment comprends cela? Il y a toutes sortes de manières de le comprendre. Et on ne peut pas nier que dans toutes les étapes, les grandes étapes du salut de Dieu, dans la Bible, nous sommes confrontés au choix de Dieu. Dieu choisit Abraham. Dieu choisit le peuple d'Israël. Dieu ne cesse de choisir. Ce n'est pas les gens ou les personnes ou les peuples qui choisissent Dieu. C'est Dieu avant tout qui les choisit. Comment comprendre cela? En fait, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas choisir Dieu si Dieu ne nous choisit pas. Nous avons besoin de l'action de l'Esprit de Dieu pour arriver à ce choix de Dieu. Dieu doit nous attirer à lui. C'est indispensable. Dans Jean chapitre 6, verset 44, Jésus ose dire « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Cette vérité ne veut pas dire que Dieu choisit certains et pas d'autres. Cette vérité ne veut pas dire non plus que nous n'avons pas le choix. Ou cette vérité ne veut pas dire que Dieu a des chouchous. Ah Manu, je te préfère à l'autre, donc voilà, je t'ai pris. Non. Mais tout simplement que son œuvre est indispensable dans notre vie pour que nous puissions dire oui à son amour, oui à son autorité, oui à sa présence. Face au choix de Dieu, il y a plein de pourquoi, n'est-ce pas? Une personne disait qu'il faut un moment donné que nous transformions nos pourquoi en vers quoi. Il faut transformer nos pourquoi en actions de grâce. Et c'est ce que Paul fait dans Éphésiens 1. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblé des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, avant de faire le monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints. Et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants pour qu'il voulait adopter en Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le fait de savoir que Dieu nous a choisis doit nous pousser à célébrer Dieu, nous pousser à le louer, à nous réjouir en lui. Savoir que Dieu nous a choisis doit nous remplir de joie. Vous êtes là ? Autre chose de très touchant de la part de Dieu. Souvent, nous disons que Dieu nous a donné, a donné Jésus-Christ. Et c'est vrai. Dieu nous a donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés de la mort, pour notre bonheur, pour que cela serve à glorifier Dieu. Mais ici, dans ce verset 6, ça dit autre chose. Le texte ne nous dit pas que Dieu nous a donné Jésus-Christ, mais qu'il nous a donné à Jésus-Christ. On pourrait dire, Dieu a fait cadeau de nous à Jésus-Christ. C'est comme cet enfant orphelin, misérable, pauvre, sur le plan social et économique. Il a été adopté dans une famille aisée. Il est forcément le premier bénéficiaire de cette adoption. C'est lui qui devient l'objet de toute la faveur, de tout l'amour de cette nouvelle famille qui le prend en charge. C'est un peu le sens du texte ici. Dieu nous a arrachés du monde, il nous a arrachés de notre misère, il nous a donnés à Jésus-Christ. Il nous a choisis pour notre bonheur. Incroyable cela. C'est tellement touchant, extraordinaire. Cette vérité, de savoir non seulement que Dieu nous a donné Jésus-Christ, mais aussi qu'il nous a donné à Jésus-Christ. Tout cela avant la fondation du monde. Pour tenir bon dans un monde qui rejette Dieu et ses enfants, pour contrer les attaques de l'ennemi qui veut nous décourager, prions sans cesse pour la joie de l'Église. Quatrièmement, prier sans cesse pour la consécration de l'Église. Verset 17 et verset 19. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi, par la vérité. Voici ce que Jésus demandait ici. Il voulait un peuple mis à part, séparé du monde, réservé pour Dieu et capable d'être employé par lui pour le servir. Satan fera tout, ça c'est clair, pour que nous soyons occupés à autre chose qu'à servir Dieu, qu'à être disponibles pour Dieu, ou de manière subtile. Il nous poussera à remplir tellement notre planning pour servir Dieu. Je veux servir Dieu, là, partout. Que nous serons découragés, à bout de force, sans zèle. J'en vois beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ont servi, et on les voit épuisés, plus de zèle, plus rien. Comme quand vous prenez une éponge là et que vous enlevez l'eau qu'il y a dedans. Plus rien. Ou encore plus subtil, il poussera à servir Dieu avec de très mauvaises motivations. Pour enfin, nous-mêmes, se servir nous-mêmes. Je me sers moi-même, je sers pour que tout le monde me regarde, m'admire, etc. Mais pas Dieu. Cette consécration a pour outil, dans le texte principal, la parole de Dieu. Nous le constatons ici dans le texte, consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Être mis à part ne doit pas être le fruit de sentimentalisme. Quelque chose s'est passé dans... à tel culte, et c'est tellement bon, et puis d'un coup on se met à servir, et tout dépend toujours de mes sentiments. Ni du devoir, je fais parce qu'il faut faire, point barre. Ou ni par la crainte du jugement, ah oui, si je fais pas ça, je vais aller en enfer. J'ai entendu ça. C'est très, très, très dangereux, et c'est pas du tout l'évangile. C'est pas du tout le message de la Bible. Non. C'est le fruit de la parole de Dieu dans ma vie. Quand je sers Dieu, quand je suis disponible pour Dieu, cela doit être le fruit de la parole de Dieu. Et quand je plonge les regards dans cette parole, elle purifie mes pensées. Et petit à petit, elle opère en moi un processus long, avec beaucoup de hauts et de bas. Pour être bien réaliste, qu'il y en a qui disent « Lis la parole de Dieu, elle va te transformer, ça va aller tout seul. » Puis comme si demain, je lis la parole de Dieu et puis pouf, les choses changent. Non, ça prend du temps. Elle opère en moi un processus long. Mais elle accomplit en moi ce processus de mettre sur mon siège, quelqu'un avait dit ça et j'aime bien. Elle produit en moi ce processus de mettre sur mon siège réservé. Je suis réservé pour Dieu et pour le servir. Et pas que dans l'église, mais dans ma propre famille. Pour le mari servir sa femme, pour la femme servir son mari, pour le couple servir leurs enfants, etc. Tout cela. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Il ne dit pas, comme beaucoup aujourd'hui le disent, ta parole contient la vérité. Non, ta parole est la vérité. Pour tenir bon dans un monde qui rejette Dieu et ses enfants, prions sans cesse pour la consécration de l'Église, pour qu'elle soit toujours mise à part pour Dieu, pour le servir. Qu'elle puise sans cesse dans la parole de Dieu, pour un service qui glorifie Dieu. Dernier point, cinquièmement, prier sans cesse pour la mission de l'Église. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu sans être ensuite envoyés. Et nous ne pouvons pas être une bénédiction sans aller vers les autres. La consécration à Dieu est toujours accompagnée de la mission auprès comme au loin. Le Père a envoyé Jésus dans le monde pour révéler aux hommes le caractère de Dieu. Jésus va retourner auprès de son Père. Cependant, les générations futures ont encore besoin d'un témoignage concernant Dieu. Cette œuvre doit être accomplie par nous, par les croyants, par ceux qui ont dit oui à l'amour de Dieu, mais bien sûr, par l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour vivre cette mission. Il est clair que nous qui appartenons à Dieu, nous ne pouvons pas représenter Dieu aussi parfaitement que Jésus-Christ l'a fait, car nous ne sommes pas l'égal de Dieu comme Jésus l'est. Mais si nous sommes dans ce monde, c'est pour y représenter Dieu. Ou sinon, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, les gens nous verraient, on partirait, hein, parce qu'en fait Dieu n'a plus besoin de nous. Hein. C'est bon, t'es à moi. Puis à chaque fois les chrétiens qui parlent comme ça. Pourquoi il est parti ? Non, si nous restons ici, c'est pour révéler qui est Dieu. Nous avons une mission. Voilà pourquoi Jésus envoie ses disciples dans le monde. Es-tu boulanger, secrétaire, informaticien, mère au foyer, étudiant, retraité ? Peu importe, tu es un envoyé. Dieu t'envoie là où tu es pour être celle et lumière du monde. Tout en sachant que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes bien dans ce monde, pour influencer le monde. Quand on dit cela, c'est pour dire, en fait, tout simplement, nous ne sommes pas dans le monde pour être influencés par le monde, mais pour influencer le monde, pour l'attirer vers Dieu, pour tenir bon dans ce monde qui rejette Dieu et ses enfants. Prions sans cesse, non seulement pour la mission de l'Église, mais aussi pour que des milliers de personnes se tournent vers Dieu. Quelqu'un dira, mais Manus, dans le texte, il est dit que Jésus, en plus c'est bien précisé, je te prie pas pour le monde. Je te prie juste pour les disciples, quoi. Comme si Jésus disait, bon, genre, eux, c'est pas mon problème, mais moi je te prie pour les disciples, c'est eux que je veux, quoi. C'est eux que j'aime, les autres, on les laisse tomber. Non, Jésus, s'il prie pour ses disciples et qu'il les envoie, c'est pour le monde. Prions donc pour la mission de l'Église et pour que des milliers de personnes se tournent vers Dieu. Je vais conclure. Jésus a prié pour la protection de ses disciples afin qu'ils soient saints, unis, joyeux, consacrés et en mission. Et environ 6 semaines plus tard, nous voyons la réponse à la prière de Jésus. Juste après la Pentecôte, vous vous rappelez ? 6 semaines plus tard, nous voyons l'efficacité de cette prière de Jésus pour ses disciples. Que ce soit Pierre, Jacques, Jean, Paul, on se rend compte qu'ils ont proclamé avec force le message de Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est incroyable, le livre des Actes. Et si tu ne l'as pas lu, je t'encourage à le lire. Ça, c'est un livre incroyable qui peut vraiment t'encourager dans l'envoi, parce que nous dépendons de la puissance de l'Esprit dans notre témoignage, dans cette mission. Alors, comment tenir bon dans un monde qui rejette Dieu et qui rejette les enfants de Dieu? Priez sans cesse pour la sainteté de l'Église, pour l'unité de l'Église, pour la joie de l'Église, pour la consécration de l'Église et pour la mission de l'Église. Cela doit être ton sujet de prière le plus important. Doit être mon sujet le plus important. Toutes les fois où nous prions, nous sommes en lutte, nous sommes en combat dans ce monde. Nous devons nous rappeler que c'est là que nous devons être. C'est là que nous devons, sur ces sujets que nous devons prier. Dieu nous attend là. Mais rappelons-nous avant de prier, que Jésus-Christ a prié pour tout cela, avant nous. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous expérimentions l'exaucement de cette prière. Ce n'est pas ma prière avant tout, mais c'est Jésus-Christ qui a prié. Et il a donné sa vie. Il est ressuscité. Il est retourné auprès du Père. Et il a envoyé le Saint-Esprit. C'est ce Dieu-là, ce Jésus glorieux que je prie. Dieu est à l'œuvre, avant même que je prie. Il prie pour toi. Rappelle-toi cela, c'est tellement courageux. Jésus-Christ prie pour toi. Il prie pour que tu sois protégé, gardé. Là où tu as des luttes, là où tu as des combats, sois encouragé ce matin. Dieu prie pour toi. Il prie pour ta protection. Il prie pour moi, il prie pour nous, pour que nous soyons protégés et gardés. Jésus prie encore pour nous. Romains chapitre 8, verset 34. Le Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Il intercède pour nous auprès du Père. C'est tellement touchant et encourageant. Dieu notre Père, pardon pour notre tendance à être centré sur nous quand nous prions, à ne pas voir que nous sommes en guerre spirituelle. Ouvre nos yeux pour enfin nous mettre au combat dans la prière. Nous l'avons chanté ce matin. Aide-nous à prier sans cesse pour la sainteté, pour l'unité, la joie, la consécration et la mission de l'Église. Merci infiniment parce que tu pries sans cesse pour nous. Nous avons tant besoin de vivre un réveil à l'Église de soir. Nous avons tant besoin de vivre un réveil en France. Alors réveille-nous, Seigneur, par ton esprit, pour que nous progressions en sainteté, en amour les uns pour les autres, dans l'unité. En amour aussi dans nos foyers, dans les couples, dans les familles. Seigneur, pour que nos cœurs aussi soient remplis de la joie de t'appartenir et de nous avoir tant aimés de toi, pour que notre consécration soit totale, afin que nous soyons pleinement actifs dans notre mission d'annoncer le message qui bouleverse, qui a bouleversé nos vies. Le message de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour le pardon de nos péchés. Oui, nous voulons un réveil. Nous voulons que ta gloire éclate pour que des foules de personnes te connaissent, se tournent vers toi et jouissent avec nous de ta présence pour l'éternité. Seigneur, nous sommes tant attristés par notre manière de vivre. Nous voulons te refléter. Aide-moi. Secours. Donne la force à ceux qui sont découragés. Fortifie ceux qui ont tant besoin de toi. Nous te demandons cela.